amène sur un tout autre terrain, donc celui des accords commerciaux régionaux et le traitement réservé aux produits culturels dans ces accords. Donc, on observe deux phénomènes depuis quelques années. Le premier concerne le modèle d'exception dans les engagements de libéralisation du secteur culturel. Donc, à l'approche de l'exemption générale, privilégié par le Canada, se substitue de plus en plus un modèle, comme vous êtes peut-être déjà au courant, de l'exception culturelle spécifique, c'est-à-dire une approche selon laquelle les parties demandent des exceptions dans chacun des chapitres d'un accord qui pourrait affecter ou qui affecte leur politique culturelle. Pour certains, c'est une approche qui est plus précise et qui laisse moins de marge de manœuvre dans l'interprétation des dispositions en cas de litige. Mais pour d'autres, le modèle chapitre par chapitre, et c'est quelque chose qui avait été évoqué le 27 septembre dernier, c'est un modèle qui comporte des risques. Le risque que les négociateurs oublient certains secteurs face à la pression de négociation ou encore qu'ils renoncent à pouvoir ajuster le tir ultérieurement face à des situations qui sont encore inconnues aujourd'hui. Et bien sûr, c'est un phénomène qui est d'autant plus inquiétant avec les nouvelles technologies. Un deuxième changement important s'observe dans le traitement réservé aux produits culturels à l'intérieur même des accords commerciaux et plus particulièrement dans les chapitres réservés aux services. L'enjeu ici ne semble plus être la libéralisation des secteurs culturels traditionnels comme le théâtre ou le spectacle ou le livre, mais plutôt la non-protection des services culturels non linéaires, tels que la distribution de films ou d'émissions télévisuelles en ligne. Donc, il existe déjà certaines exceptions qui opèrent dans ces domaines, mais elles n'ont plus rien à voir avec les exceptions culturelles. Elles sont plutôt considérées comme des exceptions au niveau commercial. Je vous donne un exemple. Dans les accords Canada-Chili, dans l'accord Canada-Chili de 2011 et l'accord États-Unis-Chili de 2004, malgré la présence de chapitres distincts sur les télécommunications, les exceptions en vertu du traitement national dans le cas des services de télécommunications pour le Canada et des services audiovisuels pour les États-Unis sont, eux, liés au chapitre sur l'investissement. Ils ne sont pas liés, donc, au chapitre sur les télécommunications. Les protagonistes qui ont travaillé sur la Convention 2005 de l'UNESCO voulaient maintenir les secteurs culturels en dehors des négociations de libéralisation commerciale, en réaffirmant, comme vous le savez tous, d'une part la double nature à la fois économique et culturelle des biens et services culturels, et de l'autre, le droit des États de se doter et de poursuivre des politiques culturelles. Mais la force peu contraignante de la Convention et le peu d'usage qu'en font les États dans leurs négociations commerciales, comme l'a mentionné Guy Philippe, mais la rend cette Convention moins efficace que souhaité. Et pour ce qui est des services, j'utilise d'ailleurs des chiffres que mon collègue Guy Philippe, dans une de ses recherches qui sera bientôt publiée sur notre site. Donc, dans le cas des services, on dénote qu'il y a un peu moins de 10 % des accords commerciaux conclus depuis 2006 qui mentionnent la diversité culturelle. Mais par contre, 55 % de ces accords-là sur les services ont une forme d'exclusion du secteur audiovisuel dans les chapitres commerciaux. Il semble donc que, une première observation, que la nature culturelle des services culturels soit peut-être à toute fin utile évacuée des nouveaux accords sur les services, ce qui contrevient bien sûr aux principes et aux objectifs défendus dans la Convention. C'est un phénomène qui a des implications majeures sur la teneur des engagements de libéralisation des États et bien sûr des répercussions qui sont multipliées exponentiellement par les défis créés par les nouvelles technologies, d'où, je crois, l'intérêt de se pencher sur les accords commerciaux et le traitement des services culturels dans les accords commerciaux. Donc, l'objectif de mon projet de postdoctorat, donc qui débutera dans les prochains mois, est double. Dans un premier temps, nous voulons explorer comment les biens et services culturels sont traités dans les accords. Donc, le but est d'essayer de comprendre le recoupement qui se fait entre les deux. Les produits culturels, autrefois traités comme des produits, sont maintenant traités comme des services, et les services sont maintenant traités comme des produits qui sont échangeables entre les frontières. Donc, il y a un flou artistique ici sur la manière dont chaque pays définit ce qu'est un service culturel. Il y a un grand travail de défrichement conceptuel à faire, un travail essentiel en raison de l'importance des définitions lorsque vient le temps de signer un accord, dans quel chapitre on les met, donc l'importance des définitions de des services et des produits culturels. Un autre gros déblayage à faire, c'est dans la classification même des services, donc les secteurs et les sous-secteurs que l'on retrouve dans les accords, parce qu'il existe là aussi un flou artistique important. Donc, comment la culture est-elle traitée dans les chapitres sur les services et comment ces derniers sont-ils divisés? Le but étant un peu de cartographier là, la classification des services. Puis déjà, on a quelques indices. La classification sectorielle des services proposée en 91 à l'OMC, donc pendant qu'ils négociaient l'accord général sur le commerce des services, ou en anglais, on est plus familier avec le terme anglais, le GATS, est reflétée dans la classification sectorielle des accords commerciaux régionaux en 2013. Donc, on voit ici très bien que c'est identique. Donc, les services de communication ont... De 91 à 2013, il n'y a pas eu de modification. Donc, les ACR, les accords commerciaux régionaux, suivent bien la classification de l'OMC. Par contre, on discerne des différences dans les sous-secteurs. Et là, je reviens à mon cas Canada-Chili, États-Unis-Chili. Le sous-secteur radio-communication dans l'accord Canada-Chili se retrouve dans le secteur des télécommunications, alors que dans l'accord États-Unis, le même sous-secteur radio-communication se retrouve dans le service audiovisuel. Maintenant, les implications peuvent être très différentes. Un autre exemple, dans l'accord États-Unis, encore dans l'accord États-Unis-Chili, les États-Unis ont tendance à faire une distinction maintenant entre fournir électroniquement un service, donc, il est soumis aux engagements dans les chapitres sur l'investissement. Et ils font une différence avec les produits numériques, donc logiciels, textes, vidéos, ou tout produit enregistré et transmis par voie numérique. Donc, un produit enregistré transmis par voie numérique est un produit, alors que fournir électroniquement un service est un service. Mais ils vont toujours les considérer comme des produits, même si les autres pays le considèrent comme des services. Alors, quand ils sont en négociation, même si les politiques culturelles du pays avec qui ils négocient considèrent un produit comme étant un service, eux, ils vont le maintenir comme un produit. Donc, comme vous voyez, il y a vraiment un flou artistique à ce niveau-là. Donc, ce premier aspect du défrichement conceptuel nous mènerait à la deuxième phase, donc, de proposer des modèles de régulation de la culture. En fin de compte, de penser les nouveaux modèles de régulation de la culture, et on propose en fin de compte une interconnectivité double, c'est-à-dire qu'il y a une interconnectivité entre, premièrement, les secteurs. Donc, la culture, les télécommunications, l'audiovisuel, l'investissement en propriété intellectuelle. Et la deuxième interconnectivité qu'on retrouve, c'est dans les acteurs. Donc, les accords commerciaux régionaux sont importants, il y en a plusieurs, déjà à l'OMC, on en dénote 117, il y en a beaucoup qui sont en négociation. Donc, c'est un acteur important, mais est-ce que les accords commerciaux régionaux permettent justement d'atteindre une coopération internationale plus importante entre les différents acteurs? Et puis ici, je fais le lien avec l'article 12 donc, de la Convention, qui est la promotion de la coopération internationale. Comment peut-on mettre tous ces acteurs, qu'ils soient étatiques, institutionnels, privés, issus des ONG, de la société civile, dans les modèles de régulation? Deux dernières observations. J'ai déjà mentionné qu'il y a beaucoup d'accords commerciaux régionaux. Peut-être juste à titre d'exemple, en ce moment, l'Union européenne en a 35 de signés, en négocie 12 en ce moment. Le Canada est en train d'en négocier 7. Fait intéressant, le Costa Rica, qui semble un petit pays, a 11 accords commerciaux régionaux de signés, et la Chine aussi. La Chine en a également 11. Et le Chili en a 25 et ils sont aussi en train d'en négocier d'autres. Donc, vous voyez que les accords régionaux, commerciaux régionaux sont vraiment très importants sur la scène internationale. L'autre observation, c'est que les accords régionaux couvrent plus de secteurs que l'OMC, que les accords de services à l'OMC. Je vous montre ici une autre diapo. Donc, les engagements de libéralisation sont beaucoup plus importants dans les accords commerciaux régionaux. C'est ici, le chiffre 100, quand on atteint l'index 100, ça veut dire qu'il n'y a aucune restriction. La libéralisation, elle est totale. Et c'est intéressant de voir parmi les différents pays, par exemple, si on regarde le Canada, Recreational Services, c'est le secteur où on retrouve les produits culturels traditionnels. Donc, le Canada sous le GATS avait un index de 0, mais dans les accords commerciaux préférentiels, maintenant, ils sont rendus à 50. Ce qui est important, juste à côté, le Chili, sous les accords commerciaux sur le service à l'OMC, ils n'avaient aucun engagement de libéralisation pour la culture, alors qu'on voit 100% dans leurs accords commerciaux régionaux. Bon, les États-Unis, en bas à droite, les chiffres se ressemblent beaucoup. Puis j'ai laissé aussi Education, Environmental Health pour donner un peu un aperçu d'autres enjeux importants. Maintenant, des nouveaux enjeux importants dans les accords commerciaux. Donc, on voit, par exemple, le Costa Rica, dans les services éducatifs aussi, avait pris aucun engagement sous l'OMC, mais ils ont un index de 90. Donc, on voit que les accords commerciaux régionaux, les pays s'engagent, prennent des engagements beaucoup plus profonds que sous l'OMC. Et ma dernière observation, c'est en fait dans les dispositions des engagements ou dans des exceptions dans les accords sur les services. Donc, où se trouvent les services culturels? Dans quel chapitre? Quelle est la hiérarchie? Est-ce qu'ils sont en annexe, dans les annexes d'exception, etc.? L'OMC, l'accord général sur le commerce des services, distingue entre quatre modes de services, ce qui revient un peu aussi au défrichement conceptuel, parce que le premier mode, c'est le commerce transfrontière. Donc, un commerce transfrontière aussi qu'on peut bien sûr associer aux produits. Le deuxième mode est la consommation à l'étranger, donc consommer sur le territoire d'un membre à l'intention d'un consommateur de services de tout autre membre. Le troisième mode, c'est la présence commerciale, donc un fournisseur de services d'un autre membre qui est présent, qui a une présence commerciale sur le territoire. Et le dernier mode de service, c'est la présence des personnes sur le territoire de tout autre membre. Alors, quels sont les modèles qui se dessinent? Et je conclue avec ça. L'accord États-Unis-Australie, je vous lis le chapitre justement sur leur champ d'application et la définition. Donc, le champ d'application de l'accord commercial régional États-Unis-Australie se lit comme suit. La libéralisation du commerce des services est principalement régie par les dispositions du chapitre sur le commerce transfrontière des services, qui généralement est défini comme incluant les modes 1, 2 et 4. Les mesures relevant du mode 3 sont régies par le chapitre 11 consacré à l'investissement et par les chapitres concernant les services financiers et les télécommunications. Donc, juste là, pour vous indiquer la complexité maintenant où se retrouvent les services culturels. Donc, ils sont dans plusieurs différents chapitres, et ça, c'est juste le modèle États-Unis-Australie. L'Europe, qui a le modèle de ses protocoles d'entente culturelle, qui est un autre sujet de discussion. Mais eux aussi, on le voit, et là, je reprends ce que mon collègue Antonios Vlasis, qui va se joindre à nous cet après-midi, a écrit dans une des chroniques, justement, chronique culture, commerce et numérique, de celle de janvier, lorsqu'il il dit que, bon, les ministres européens du commerce ont apporté des changements dans leur mandat de négociation, et ça, c'est l'Europe, afin d'assurer que le secteur audiovisuel puisse être régi par les règles d'investissement dans un accord potentiel. Et donc, ils ont divisé en deux le chapitre relatif au commerce des services et celui sur la protection des investissements. Les services audiovisuels sont exclus du chapitre sur les services, mais inclus dans le chapitre des investissements. Donc, encore un autre exemple de la nécessité de cartographier où on peut trouver les services dans les accords. Donc voilà, c'est des questions qui demeurent bien sûr entières, mais comme vous pouvez le constater, c'est des questions qui sont très complexes et qu'on espère pouvoir apporter un peu de sens dans les prochains mois. Je vous remercie.